Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, le débat des grandes voix, comme chaque soir, avec Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, ce mardi. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Alors ce soir, messieurs, on s'intéresse d'abord au débat qui rebondit sur le sort des mineurs isolés. Car c'est confirmé, l'assaillant présumé de l'attaque de vendredi à Paris a admis avoir 25 ans et non pas 18, comme il l'avait fait croire. Il est pakistanais, il était entré en France il y a 3 ans et il s'était donc présenté comme mineur, ce qui avait permis à ce titre d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et ça relance aujourd'hui évidemment le débat sur le suivi de ces jeunes migrants. Gérald Darmanin s'est exprimé sur la question à l'Assemblée nationale tout à l'heure.
Il y a aujourd'hui un drame des mineurs isolés, notamment venant du Maroc, notamment venant de l'Algérie, mais aussi de la Tchétchénie ou du Pakistan. Je me rends au Maghreb la semaine prochaine à la demande du Premier ministre et du Président de la République pour régler le problème qui relève notamment des pays du Maghreb, qui est l'essentiel des problèmes que nous posons. Ces faux majeurs prennent la place des vrais mineurs que nous devons protéger.
Merci, monsieur le ministre.
Voilà, le ministre Darmanin a bien résumé la question. Il y a ces mineurs qui méritent l'accueil de la République et ceux qui mentent et qui doivent être reconduits dans leur pays. Alors ça, c'est pour la théorie. Mais dans les faits, comment on fait, Charles Villeneuve?
Alors justement, le cas justement du terroriste présumé des anciens locaux de Charlie Hebdo est intéressant parce que les agents du département, si vous voulez, où il s'est présenté, ainsi que ses frères, puisqu'ils étaient 3, ont eu tout de suite des soupçons. Et oui, on saisit la justice. Et le juge d'instruction, justement, a refusé de soumettre au test osseux, qui n'est pas, si vous voulez, d'une précision extraordinaire, mais qui, à 1 ou 2 ans près, détermine quasiment l'âge, parce que tous étaient étonnés de l'aspect physique de ce jeune de 18 ans, 17 ans, 18 ans, qui évidemment a déclaré qu'il était mineur pour profiter de l'aide sociale à l'enfance au titre des mineurs étrangers non accompagnés.
Oui.
Et finalement, le juge d'instruction, vous savez qu'on peut refuser le test osseux.
Oui.
Or, il n'est pas spécifié, d'après ce que j'ai su, et notamment après téléphone aux agents justement du département, qu'il avait refusé le test. C'est le juge qui l'a refusé. Et dès lors, si vous voulez, c'est vrai que c'est un acte de toute façon indéniable, mais la preuve de son identité réelle a été apportée dans la fouille de son portable, où sa date de naissance et son vrai nom, puisqu'il ne s'appelle pas tel qu'on l'appelle ou qu'on l'a nommé.
En fait, tout l'enjeu, c'est important de le rappeler, c'est que s'il avait été détecté comme majeur quand il était arrivé sur le sol français, bon, il serait peut-être toujours sur le territoire national en train de demander l'asile, mais il y a peut-être une chance qu'il ait été reconduit à la frontière.
Absolument,
dans
à
son
la frontière.
Pays. Alors, justement, sur le test osseux, je me suis aussi plongé moi, je ne connaissais pas cette pratique.
Oui, oui.
Rappelons que c'est une radio de la main gauche. C'est une pratique controversée car elle représente une importante marge d'erreur. Et le référentiel est un catalogue de radio de petits Américains fait entre 1930 et 1940, ce qui induit, vous l'évoquiez Charles Villeneuve, une marge d'erreur de 18 à 24 mois selon les âges. Est-ce que la solution, pour couper court à toute polémique, ça ne serait pas de revoir ce test osseux ou de trouver un autre test
qui permet de définir
l'âge d'un jeune adulte?
On peut perfectionner le système.
On peut revoir ce système, certes. Mais ce qui n'est pas acceptable, à mon avis, ce qui est même un grave dysfonctionnement de la part de la justice, c'est qu'on ne cherche pas véritablement... En fait, le mensonge profite à celui qui, effectivement, triche. En l'occurrence, le mensonge, c'est-à-dire dire « je suis mineur », alors qu'on sait parfaitement qu'on est majeur, puisqu'on a, 7 ans de plus que l'âge, 18 et 7, 25, c'est ça,
hein?
7 ans de plus,
non,
c'est pas rien.
Non, 25 aujourd'hui.
25 aujourd'hui,
c'est-à-dire pas quand il est rentré.
Il avait 18 ans quand il est arrivé
23,
sur le territoire.
Alors, disons
18,
23, 19,
oui, 22,
18,
23.
23. Il dit qu'il a 18, moins de 18 ans, il en a 23. Alors là, 5, ça fait quand même beaucoup, 5 années.
Après, moi, je vous mets au défi sur certains jeunes de reconnaître s'ils ont 16 ans ou 18 ans.
Ça fait tellement beaucoup que même à l'époque, dans le département, les premières personnes qu'il a vues se sont dit « c'est pas possible, ce n'est pas un mineur ». Donc, la seule façon de faire, c'est de faire une enquête.
Oui.
Pas question. On dit non, 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 on ne fait pas d'enquête. Je pense, moi, qu'une fois de plus, il y a eu de la part de la juge ou du juge qui a tranché, il y a eu une preuve d'idéologie. Le juge des mineurs a fait, comme d'habitude, de l'idéologie. Il faut, ces pauvres garçons, etc. On voit le résultat.
Est-ce qu'on peut dire ça, vous êtes sûr, Gérard Carrérou? Est-ce que vous connaissez ce juge en question?
J'en suis convaincu. Non. Et je voudrais bien que le juge en question s'explique.
Oui.
Pourquoi, sur quelle base elle a décidé.
Alors, si j'ai bien compris, c'est qu'en cas de doute, Le doute doit profiter aux mineurs.
Systématiquement, le doute, c'est bien ce que je vous dis, le doute profite systématiquement aux tricheurs.
Parce que vous comprenez que je me fais que le porte-voix de ce que j'ai lu aujourd'hui.
Oui, Julien,
parce que les juges disent, non. Imaginez, on se trompe dans le sens inverse. Imaginez, c'est un jeune qui a 16 ans et on fait un test osseux et il se trouve que le test ressort à 19 ans, alors que c'est un jeune de 16 ans. Ça veut dire que la France n'est pas dans son rôle d'accueil des mineurs.
Non, mais il y avait une autre manière aussi, de toute façon, parce qu'il était déjà détenteur d'un portable. Souvent, si vous voulez, quand ils arrivent, ils ont de toute façon cet instrument, soit dans leur poche, soit ils le portent sur eux.
Oui.
Or, d'abord, il y a une première réflexion à faire, c'est que les agents du Conseil général du département de l'Oise avaient de forts soupçons sur le fait,
c'est ce que j'ai
si vous voulez, du physique.
Bon,
ça, c'est la première chose.
Ce
n'est pas suffisant. Ce n'est pas une preuve, si vous voulez, c'est vrai. Mais il n'empêche que dès lors que les enquêteurs et la police, notamment la brigade criminelle, s'est mis en action, ils ont tout de suite trouvé sur une photo qu'il avait dans son portable, prise bien avant qu'il n'arrive même, sa date de naissance et sa véritable identité. On aurait pu peut-être aussi profiter dès lors qu'il y a un doute.
Non, mais quand on ne fait pas d'enquête, on ne risque pas de trouver. Et puis, il y a un élément supplémentaire que je me permets de vous rappeler. C'est que le Pakistan, ce n'est pas n'importe quel pays. On me dit qu'il y a des pays, on parle des pays, certains pays du Maghreb, etc., qui présentent aujourd'hui, c'est Darmanin qui vient de le rappeler à l'Assemblée. Mais le Pakistan, n'oublions pas que c'est c'est un des pays les plus radicaux au niveau de l'islamisme radical. C'est le pays des madrassas où les filles ne sont pas admises, sauf si vous voulez, elles ne peuvent pas faire d'études, etc. Mais c'est le pays où Ben Laden a trouvé refuge pendant des années. C'est le pays où les terroristes du World Trade Center étaient largement majoritaires, les Pakistanais. Je pense que quand on connaît ça, ce pédigré du Pakistan en termes de terrorisme, qui est considérable, on fait très attention aux jeunes Pakistanais.
Ou alors on
laisse filer.
Alors on continue d'en parler dans quelques secondes. 18h40, on se retrouve avec les grandes voix, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, on est toujours avec le débat des grandes voix, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et ce soir, on parle de cette polémique autour des mineurs étrangers isolés. Les autorités disent vouloir s'attaquer au problème après les révélations concernant l'assaillant présumé de l'attaque de vendredi à Paris, qui a admis avoir 25 ans et non pas 18 ans, comme il l'avait fait croire. Alors, quelle est la solution? On était en train d'en discuter avec les grandes voix, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Est-ce qu'il faudrait faire des enquêtes approfondies? Parce que la justice n'en a pas vraiment les moyens à chaque fois qu'un mineur ou qu'un jeune majeur, ça dépend comment il se définit, devant la justice.
Mais c'est très important, si vous voulez, d'apporter des précisions, puisque vous savez que la section antiterroriste de la brigade criminelle a poussé l'enquête assez loin et a découvert qu'il avait été interpellé deux fois durant son séjour à Paris, en France, en janvier, dans une affaire de violence volontaire, et en juin dans un port d'armes prohibé, en l'espèce un hachoir de boucher. Il avait manifestement une certaine attirance sur le hachoir, puisque ce hachoir avait été découvert par la police.
Oui, c'est la même arme qu'il a utilisée
la
vendredi.
La gare du Nord, et il a trouvé un autre hachoir pour attaquer. Absolument. Donc, si vous voulez, partant de là, je pense que la justice ne peut pas en permanence, elle, lancer des enquêtes approfondies, comme elle l'a fait par rapport à ce terroriste présumé. Je précise bien présumé, puisque pour l'instant, il n'a pas été encore jugé.
Même s'il a reconnu les faits.
Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'en réalité, si vous voulez, il y a à peu près 40 000 réfugiés, des jeunes réfugiés. Je dis 40 000 parce que le tiers quasiment est considéré comme majeur et les deux tiers comme mineurs.
Oui.
Or, pour condamner, si vous voulez, ces mineurs qui se livrent à des délits, et parfois même à des crimes, comme c'est le cas pour ce Pakistanais, eh bien, il faut, si vous voulez, savoir s'il est mineur ou s'il est majeur. C'est très important. Parce qu'on peut condamner des mineurs, on ne peut pas condamner des mineurs à de la prison ferme. On peut le faire quand ils sont majeurs.
Si, on peut condamner les mineurs à de la prison ferme.
Mais si, au-delà de ça, Charles.
Non, mais c'est-à-dire que très
souvent. Les peines sont inférieures à celles des majeurs, mais on peut les condamner à la prison.
Je peux répondre. Au-delà de il y a quand même un problème qui est un problème de fond. Tout le monde sait la difficulté que l'on a avec un certain nombre de jeunes des quartiers déjà d'intégration. On ne parle même plus d'assimilation. Et d'intégration, et ces jeunes souvent sont des fils et filles de parents français, ils sont eux-mêmes français et ils ont des problèmes de difficultés d'adaptation. Et on le voit, ils sont souvent tentés par, effectivement, un islam radical. On le voit dans les sondages, on l'a entendu. Est-ce que vous pensez sérieusement, et est-ce qu'on peut penser sérieusement, sans exagération, que des jeunes qui viennent du Pakistan, en admettant même, j'oublie même le fait qu'ils n'étaient pas mineurs, mais il aurait été un vrai mineur.
Oui.
Imaginez ce jeune homme, il rentre, il ne parle pas le français du tout.
Oui.
Il parle le ourdou.
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à Paris? On le met dans un foyer où ils sont sept, sur des lits superposés dans cette chambre.
Oui.
Il n'y a que des Pakistanais, ils ne parlent que le ourdou.
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent et ils regardent les vidéos, en pakistanais bien sûr, en regardant le procureur l'a rappelé aujourd'hui, c'est en regardant cette vidéo en ourdou qu'il a appris qu'en France, il y avait à nouveau publication des versets, effectivement, dans le journal, dans Charlie Hebdo, et il a pris sa décision. Voyez comment imaginer qu'on pouvait intégrer en 2 ans, il a passé 2 ans, dans ce milieu...
C'est un sacré procès d'intention que vous faites à tous ces gens, parce qu'il
n'y
a pas que des fous de Dieu quand même au Pakistan.
Je vais aller au fond de ma pensée.
Il y a des gens qui sont médecins, des gens qui sont avocats et qui émigrent en France pour trouver du travail.
Pas dans cette catégorie-là. Je pense que là, on cherche, effectivement, on trouve ce qu'on a cherché.
Mais comment vous voulez catégoriser les gens qui arrivent sur le...
Déjà, on applique la loi. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de ne pas faire entrer un majeur qui a 5 ans de plus que l'âge normal.
Oui.
On ne s'applique pas la culture de l'excuse qui est en permanence utilisée pour dire de toute façon le doute doit profiter, etc. Et parce que à force
ça c'est le fonctionnement de la loi, il faut la changer alors, c'est ce que vous dites.
Non, c'est pas la loi qui dit.
La loi dit le doute doit profiter aux mineurs.
C'est une jurisprudence. Oui. C'est la jurisprudence. On dit le doute. Par définition, vaut mieux, parce qu'on part toujours du vieux principe.
Ça s'entend, Gérard Carreau, on peut changer ça.
Mais ça s'entend. Simplement, je dis qu'on est dans l'irresponsabilité, et en laissant entrer un majeur, sous prétexte qu'il était mineur, qui se cantonne dans une culture, ayant une culture nationale qui est une culture de terrorisme ambiant, il a vécu dans un pays... ultra, effectivement, radicalisé.
Mais attendez, Gérard Carreau, vous êtes en train de dire que tous les Pakistanais sont des terroristes en puissance ?
Je pense qu'aujourd'hui, la France n'aurait pas besoin de faire rentrer des Pakistanais majeurs, je dis bien, puisque les mineurs, il y a l'excuse de minorité, mais je parle de Pakistanais majeurs.
Alors, on part aux États-Unis dans un instant, 18h46.
Et les Américains ne le font pas, d'ailleurs.
Hein, 18h46, on part des Pakistanais aux États-Unis, quand même. 18h47, le temps passe, Gérard. On passe aux États-Unis dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, un duel au sommet ce soir aux États-Unis. On en parle dans le débat des grandes voix. 4 semaines du scrutin présidentiel, Donald Trump fera face tout à l'heure à son adversaire, Joe Biden, Sleepy Joe, comme il le surnomme. L'événement pourrait rassembler à la télévision jusqu'à 100 millions d'Américains, même un peu plus. Alors que faut-il en attendre? Est-ce que ce duel peut renverser la table et permettre à Donald Trump de l'emporter? Il est au plus bas, vous le savez, dans les sondages. On en parle donc avec les grandes voix. Alors, Charles Villeneuve, d'abord, est-ce que vous serez réveillé à 3h du matin, heure française, pour regarder ce duel qu'on annonce saignant?
Non.
Non. Donc non. Vous regarderez, comme nous tous, le résumé demain matin?
Oui.
Avec les meilleurs moments. Ça va durer quoi, Gérard Carreau? 2 heures?
Ça va durer 2 heures, oui. Moi, je le regarderai à la deuxième édition, si j'ose dire. Parce qu'en général, les networks américains, qu'on peut capter d'ailleurs, je le dis pour tous les Français que ça intéresse, les chaînes américaines comme CNN, si vous voulez, peuvent, une fois la diffusion terminée, vont le rediffuser en boucle derrière.
Oui.
Ce qui fait que si vous ne voulez pas le regarder à 3 heures, regardez-le entre 5 et 7.
Bien, moi comme je suis corporate, j'écouterai ça chez Mathieu Béliard demain matin à partir de 7 heures sur Europe 1, évidemment. Alors est-ce que ce débat, Charles Villeneuve, Gérard Carreau, peut changer les choses? Donald Trump, je le disais, loin derrière aujourd'hui dans les sondages. 49,9% pour le démocrate, 43,1% pour le président sortant. Est-ce que ce genre de débat, ça peut inverser la tendance?
Ça l'a fait, ça a joué un rôle. Enfin, en général, si vous voulez, sur les 50 dernières années, puisque ça a commencé en 1960.
Nixon-Kennedy.
Le premier, c'est Nixon-Kennedy. Donc sur les 60 dernières années... on dit, les spécialistes américains disent ça ne fait pas véritablement... c'est pas ça qui fait l'élection. Ça y contribue, mais c'est pas majoritairement ça qui fait l'élection. Sauf que l'élection de 60 entre Kennedy et Nixon Nixon a été toujours convaincu jusqu'à sa mort qu'il avait perdu l'élection parce qu'il était mal rasé ou pas rasé suffisamment de près et que ça avait fait une sorte de grisaille. Et, bon, c'est le point de vue de Nixon. Non,
mais ce qui est amusant pour poursuivre ce que vous dites, c'est qu'à la radio, c'est Nixon qui avait gagné, car il avait un timbre de voix, une assurance qui était plus forte que celle de Kennedy.
Justement, mais à la télé,
l'image, c'était voilà, une toute autre histoire.
Donc, ça me permet de dire pour le débat de ce soir, pour le débat Trump-Biden, il y a deux choses, il y a le fond et la forme. Le fond, je pense qu'on n'apprendra pas grand-chose. Chacun développera l'un son bilan, l'autre la critique du bilan. Mais c'est la personnalité qui va jouer.
Oui.
Si Trump réussit son pari, c'est-à-dire d'apparaître comme celui qui a l'énergie, la vitalité, le punch, effectivement, convaincre qu'il peut facilement refaire un mandat et dire « j'avais réussi à mettre l'économie au pinacle, bien sûr il y a eu le Covid, mais maintenant on va repartir », s'il réussit ça, il va gagner. Si c'est Biden, au contraire, qui démontre qu'il n'est pas le mort, parce qu'on le présente un peu comme un mort vivant, j'ose dire, Sleepy Joe.
Il a très peu fait campagne, d'ailleurs.
Il n'a pas fait campagne, il a pas bougé de sa maison, et il est très fragile.
Alors là, il a démarré une grande campagne pour aller séduire l'électorat blanc ouvrier dans des, états
qui
seront déterminants pour l'élection.
Oui, dans les swing states, qui sont déterminants. Mais Biden, pour l'instant, il est favori dans les sondages, il est, à mon avis, pas favori dans l'impression qu'il a... Bon, aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il a... Alors, beaucoup de gens savent ce que disent beaucoup d'Américains actuellement. Ils disent, oui, bon, Biden, finalement, c'est pas grave, on va élire Biden, et ça sera Kamala Harris qui prendra la suite dans un an ou dans deux ans.
C'est ce qu'il a dit. Si j'arrive pas à finir mon mandat,
vous vous rendez compte,
ça
quelqu'un qui dit attendez, vous votez pour moi, je serai mort dans deux ans et ça sera ma colistière.
Il y a quand même un élément nouveau dans cette campagne, Charles Villeneuve, c'est la feuille d'impôt. La feuille d'impôt sortie par le New York Times de Donald Trump qui peut lui faire très très mal parce que je sais pas combien vous payez d'impôts, je vais pas vous demander ça, mais lui, vous savez combien il a payé d'impôts?
750
euros et 690 et zéro pendant les 10 dernières années. On a du mal à le croire quand même.
C'est l'affaire Jacques Chaban-Delmas, ça. Justement, on l'avait sorti avant le premier tour. Justement, de la première élection en 1974 pour tuer Jacques Chaban-Delmas, qui était... C'est le canard enchaîné qui avait sorti, justement, le fait qu'il ne payait pas d'impôts, ou quasiment pas. Alors, lui nie, de toute façon, catégoriquement, justement. Alors, c'est le New York Times qui, quand même, fait campagne plutôt pour
Mais
Biden,
pour les
démocrates.
C'est quand même le seul président dans l'histoire américaine qui n'a pas publié ses feuilles d'impôts.
Oui, c'est possible. Mais moi, je ne pense pas que ça va se passer sur ce terrain-là.
Non, pas du tout.
Pas aux États-Unis. Je crois que, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un débat chez les démocrates, un vrai débat, et notamment Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, qui était contre ce débat. Et finalement, après un débat intérieur, justement, aux démocrates, ils ont décidé de lancer Biden. Et tous ont une crainte, c'est qu'il ne peut pas tenir le coup physiquement. Au fond, on présente d'ailleurs ce débat comme un véritable match de boxe. Alors évidemment, qui va tenter le chaos? Vraisemblablement Trump, bien sûr. Est-ce que ça peut être décisif? Pourquoi pas? Mais évidemment, comme le disait Gérard, les débats ne sont jamais complètement décisifs. Encore qu'ils influencent quand
Il y en a trois en plus, il y en aura deux autres.
Oui. Alors là, ce débat, si vous voulez, peut doper en réalité l'électorat en faveur de Trump, parce que Trump va essayer de l'acculer complètement dans les cordes.
Oui.
Et vous savez comment il l'appelle,
Sleepy Joe,
l'endormi. Donc il va essayer de jouer parce qu'il est capable de tout sur ce plan-là.
Ceux qui sont gagnants dans cette affaire, c'est les boomers, si vous me permettez un mot de malice, parce que l'un a 73 ans et l'autre 75 ans, donc ça sera une élection de boomers avec un président boomer.
Oui, mais c'est deux hommes qui ne sont pas jeunes, mais il y en a un qui paraît plus vieux que l'autre.
Bien, rendez-vous en tout cas demain pour le grand débrief dans la matinale à partir de 5h en direct sur Europe 1 avec l'excellent Mathieu Béliard.
Europe 1, Julien Bugier.
On se retrouve dans quelques instants avec le journal de 19h et juste après, on ouvre le Club des idées. Justement, on parlera de ce débat avec Donald Trump et Joe Biden, avec nos invités. Peut-il renverser la table? Nos experts, nos correspondants en direct des États-Unis, ils seront avec nous. À tout de suite.